Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut, salut Charline.
Aujourd'hui, on reçoit François Durpaire.
Ah, mais je connais.
Ah oui.
Ah bah oui, mais c'est celui qui est souvent sur BFM.
Ah, c'est ça.
Ah
ouais,
bah attends,
ouais.
Parce que moi, je vois pas du tout.
Ah si, tu vois, c'est...
Non, c'est un grand spécialiste.
Non, ouais, mais, non, ouais. Mais c'est surtout celui qui a la coupe de cheveux, là.
Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, les lignes, là. Voilà. Oui, je vois très bien, très
Christophe
bien.
Christophe Barbier, c'est l'écharpe, lui, c'est la coupe.
Oui,
voilà.
Comment ça?
Mais enfin, Charline, ah, oui. François Durpaire, il a une coupe de...
D'historien.
Mais non, de footballeur.
Mais ça va pas ou quoi?
Mais si, il a trop le style.
Non, mais le garçon, pardon de vous le dire, mais notre invité est un universitaire brillant.
Oui. Pardon de te le dire, oui. Il a une toute belle coupe.
Voilà, mais voilà. C'est pas ça qui est important. Oui, oh, enfin, c'est l'intérêt de ses recherches qui compte. Il est spécialiste des États-Unis.
Mais
par
c'est
exemple.
Quand même marrant que hein? Ça puisse être le fils caché d'Alain Decaux et de Paul Pogba.
Il a travaillé sur les notions de multiculturalisme et de diversité.
Ouais. Comme Paul Pogba,
voilà. C'est la diversité.
Paul. Et il est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise où il est membre du labo Bonheur.
Mais alors, si son bonheur hein? Passe par des choix capillaires discutables, il n'y a pas de souci.
Vous n'allez pas passer l'émission à parler de ça quand même.
Alors, que... François Durpaire, cette coupe, pourquoi?
Est-ce qu'on peut toucher?
Est-ce que vous avez des conseils d'entretien?
Voilà. On va se mettre bien d'accord.
Quoi?
Vous faites une seule remarque sur sa coiffure, je vous parle de vos vêtements.
Ah, bah non,
ah, non, ah, non, ah non,
c'est
ah non.
Clair, c'est clair.
Ah oui, bah si tu sors le joker.
Ah, c'est très malhonnête ce que tu fais.
La France Inter, vous écoutez la Tartup, cet endroit où la blague procède au blocage des autoroutes de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont faire le tour de l'horloge comme on fait le tour d'un rond-point. Le nouveau président brésilien Bolsonaro entend lutter contre le socialisme scolaire et son corollaire, selon lui, la sexualisation précoce des enfants. On est bien parti. Une loi prévoit d'obliger les professeurs à la neutralité et l'enseignement de l'histoire est scruté évidemment de très très près.
Il bluffe, pas sûr. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe.
Les Grecs s'apprêtent eux à privatiser des centaines de sites historiques dont le palais de Knossos. Quand l'Acropole sera transformée en parc d'attractions, on regrettera l'époque où certaines œuvres antiques étaient déjà exilées en France.
Qui nous a volé la Vénus des Milo et les frises du Parthénon?
Ah non, les frises du Parthénon, ce sont les Anglais.
Astérix revient au cinéma dans un film d'animation d'Alexandre Astier, qui est aussi le créateur de Kaamelott. Autant dire que le bonhomme a un penchant pour les Gaulois, les Gallo-Romains, pilier de la culture populaire, sans oublier cet autre héros qui a fait un peu d'ombre à Astérix.
À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois.
Lui a...
C'est Sarkozy,
exactement.
Ça va, je peux intégrer l'équipe.
Je pense que François Durpaire vient de gagner ses galons de chroniqueur à part Jupiter.
Tu auras une blague par semaine.
Lui a coutume de rappeler que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus brèves. C'est Alex
voilà,
Vizorek.
Elle est bonne. Bonjour Charlotte Malonacker.
Bonjour.
Vous avez mérité une toute belle équipe aujourd'hui à 17h20. Ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu. Oh. On s'était même dit qu'il avait dû faire une virée nocturne avec Jean-Vincent Placé. C'est Thomas Bidguin, bonjour.
Mais bonjour, justement, je viens vous parler de triomphe.
Oh là, très bien,
bah, c'est ça.
C'est normal, hein. Thématique pour vous. 17h30, celui qui a rencontré des gilets
c'est
jaunes.
Vrai.
Autant
oui.
Vous dire qu'en matière de clarté des revendications, il est largement passé inaperçu. C'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, je suis allé à leur rencontre. J'étais en Bretagne, il y avait une bien belle ambiance et des avis sur Macron.
Macron, il pue l'essence.
Eh oui, parce qu'il a les moyens de s'en payer.
Et évidemment. Et à 17h40, celle qui en solidarité avec les gilets jaunes a pris un petit jaune ce week-end aussi. C'est Juliette Arnault, bonjour.
Bonjour, j'aime pas le pastis, on vous chante.
Oui, bah, quand il reste rien. De quoi on va parler?
D'un polar, d'un roman noir que j'ai pris pour le titre, Deux femmes, bah, j'ai bien fait.
Très bien.
Et voici celui qui sera le porte-voix de la start-up jusqu'à 18h. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
L'homme qui a eu la coupe. Il y en a qui ont des noms, d'autres qui essayent de se faire un prénom, et moi j'ai qu'une coupe de cheveux.
C'est la coupe de François Durpaire.
Oui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek.
C'est lui qui en a parlé, madame, c'est pas nous. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. François Durpaire, enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. On a l'occasion de vous voir aussi régulièrement à la télévision, car vous avez à cœur aussi d'être pédagogue et de vulgariser parfois l'histoire, là, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et vous publiez un livre chez Albin Michel, dont le titre est sans ambiguïté « Nos ancêtres ne sont pas gaulois ». Vous proposez une contre-histoire de France. C'est sous-titré d'ailleurs aussi le nouveau roman national. On comprend votre démarche dans ce titre, évidemment. Et vous expliquez étudier l'histoire à travers trois nécessités et revoir l'histoire avec trois autres prismes qui sont la féminisée, la mondialisée, la régionalisée. Vous nous dites que finalement, on est tous un peu créoles, pas que gaulois.
Exactement.
Qu'il y a une créolité chez
chacun. Oui, parce qu'en fait, quand on tournait les pages du vieux manuel d'histoire de France, il y avait les Gaulois, on tournait la page, on était déjà gallo-romains. Donc, faut pas avoir peur des invasions récentes, puisqu'on est le produit d'une invasion ancienne.
Oui.
Autrement, on parlerait tous en celte, et c'est pas. Donc, pour répondre à Sarkozy, qui lui disait, mes parents sont hongrois, mais moi, je me reconnais dans cette histoire-là. Faut lui répondre qu'il y a des Français, par exemple, antillais, qui peuvent pas se reconnaître, par exemple, dans un héros national qui serait Napoléon. Parce que leur arrière-grand-père, arrière-grand-mère ont été massacrés par Napoléon. En fait, l'idée, c'était de réécrire un récit qui soit qui ressemble, en fait, à nos Français d'aujourd'hui, à nos jeunes Français d'aujourd'hui.
Et plus intégratif, dites-vous.
Exactement. Bah, en fait, en étant plus proche de l'avancée scientifique, on est plus proche de quelque chose d'intégrateur. C'est tout simple. On a oublié les femmes, mais les femmes sont dans l'histoire. Donc, dire qu'aujourd'hui, cette histoire est plus idéologique qu'hier, moi, j'ai tendance à dire que c'était plutôt hier que c'était idéologique, puisque c'était une histoire écrite par des hommes qui ne faisait pas la place aux femmes et écrite par exemple des colonisateurs qui ne faisaient pas la place aux tirailleurs africains qui, c'est l'actualité, ont quand même bien servi à ce que la France soit un pays vainqueur au cours des deux premiers conflits mondiaux.
On peut prendre un exemple, Paulette Nardal, parce que vous allez aussi dans les personnages moins connus qui ont été pionniers et oubliés.
C'est très important, Paulette Nardal, parce qu'en plus, il y a un collectif, je ne le savais pas, mais quand j'ai écrit ce chapitre, mais il y a un collectif qui demande son entrée au Panthéon. Donc peut-être on est premier là sur cette info-là.
Alors qui est-elle pour ceux qui...
Paulette Nardal, c'est, alors on a beaucoup dit Aimé Césaire, c'est le père fondateur de la négritude. Et en fait, avant Aimé Césaire, il y avait Paulette Nardal. Avant l'homme, martiniquais qu'on connaît tous, il y avait une femme 10 ans avant qui a dit effectivement, qui était à la fois féministe et qui mettait en avant aussi cette cause de l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et on connaît très peu Paulette Nardal. Et quand on dit Paulette Nardal aux Antilles, peu de gens la connaissent également.
Vous expliquez aussi que la grosse défaite de Napoléon à Saint-Domingue a été complètement occultée de l'histoire de France et c'est pourtant la victoire d'anciens esclaves contre l'armée la plus puissante du monde.
Oui, moi j'avais appris même quand j'étais au lycée que la première défaite des Blancs contre un peuple non blanc, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on apprenait ça, c'était bizarre de racialiser. Je ne suis pas né au début du 19e siècle.
Rappelons que vous aviez Bruno Gollnisch à l'époque.
C'était un prof bien de gauche, mais bon, c'était dans les manuels. Et c'était 1905, c'était les Russes contre les Japonais. Et en fait, non. L'armée napoléonienne a été battue par les Haïtiens. Les Français avaient vendu la Louisiane pour financer leur guerre de reconquête de Saint-Domingue, qui était la plus grande colonie française. Mais ça faisait tâche. C'était 13 ans avant Waterloo. On a appris Waterloo, mais ça fait classe de perdre contre toute l'Europe coalisée. Mais perdre contre des anciens esclaves, ça
il y a un Waterloo à Saint-Domingue.
Exactement.
Donc. François Durpère, est-ce que, comme en économie, en ce moment, il existe, on dit, un discours dominant, et puis une économie dite plus alternative, avec une vision plus de gauche, je prends des raccourcis, mais on comprend. Est-ce que c'est pareil en histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un discours assez dominant, parce que ce qu'on entend beaucoup dans les médias, la télévision, etc., ce discours ne racine les Gaulois, les politiques aussi. Est-ce qu'il y a aussi une histoire alternative, comme il y a une économie, des économistes alternatifs, des historiens atterrés.
En fait, la plupart des historiens, parce que vous avez remarqué que cette histoire dominante dans les médias est pas le fait d'historiens. C'est pas pour leur faire un reproche, mais ils écrivent l'histoire sans un récit national qui, et eux ne sont pas historiens. La plupart des historiens disent, mais non, pourquoi vous oubliez cette partie-là? C'est, par exemple, quand Sarkozy a dit, nos ancêtres sont les Gaulois, les premiers à dire, mais non, c'est pas possible, c'est Jean-Louis Bruno, c'est les spécialistes des Gaulois qui ont dit, mais de quoi vous parlez? Les Gaulois, c'était même pas, il n'y avait pas d'identité culturelle gauloise, c'est invraisemblable de dire cela. Ouais. C'est historiens qui disent non, c'est pas possible. Alors effectivement, aujourd'hui, je pense que la grande question, c'est celle de la place du lien dans nos sociétés. On se pose la question tous les jours de ça. Et en histoire, il y a aussi où on met le curseur du récit. Est-ce qu'on fait un récit très fermé autour d'une racine unique, ou est-ce qu'on fait un récit un peu plus ouvert qui intègre?
Ouais.
Oui, inclusif, ne serait-ce que la plupart de ces gens-là, bon, pour ne pas le citer, Éric Zemmour, ses parents, et ses parents, Non, mais on va dire quelque chose quand même. Ses parents, ils ont le droit d'être dans le récit national français. Or, si on va au bout de sa logique, il s'auto-exclut du récit national. Puisque ses parents, eux, je m'en fous, je viens du Poitou. Mais pas Zemmour.
Donc, vous y consacrez un chapitre.
Je pense qu'il vaut mieux qu'il lise plutôt le nôtre.
Zemmour contre Zidane.
Parce que. Mais sans. L'idée, c'était d'écrire un récit, mais qui c'est pas un essai. Donc c'est pas un essai anti. C'est de.
Non, pas du tout. D'ailleurs, vous réexpliquez bien depuis le début. Pour nous qui sommes, par exemple, belges, qui maîtrisons moins l'histoire de France, on a tout de suite, de nouveau, vous réexpliquez toutes les bases. Et ensuite, vous allez dans les angles morts de l'histoire ou les personnages qui ont moins eu de lumière, qui sont pionniers et qui sont fait un petit peu récupérer parfois. C'est donc.
Il y a les migrants belges dedans.
Oui, bien sûr. Ouais. Avant les Italiens et les Polonais. J'ai bien noté ça. J'ai commencé par ce chapitre de François Durper, Nos ancêtres ne sont pas gaulois. Cette contre-histoire de France, parue chez Albin Michel. C'est un petit peu une spéciale histoire aujourd'hui avec François Durper. On en profite.
Couple of days and a real dark night. I miss my own child. I ain't seen her since that night. She left home about 8 and never to return. Our bodies floating through that river. Searching all around, day in, day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be? Cause every step I take, I can't think, oh Lord, please press to me. Somebody tell me, what's going wrong? I can't see my baby.
Inter, où notre invité, c'est François Durper. Je rappelle qu'il est enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise. Et comme il est en promotion de son livre « Nos ancêtres ne sont pas gaulois » paru chez Albin Michel, on tient à dire aux étudiants qu'il est là avec nous, qu'il est toujours vivant.
Il va partir en vacances.
Ouais, voilà. Vous allez retourner à l'université la semaine prochaine.
Même cette semaine.
François Durper avec nous et Alex autour
de nous. Nous avons par ordre d'apparition notre ami Thomas Bidguin, Guillaume Meurice et Juliette Arnoux.
Et le journal ?
Toujours.
Bah, il est toujours là, oui.
Moi, j'entends ce que disent les Français.
Le journal de presque 17h17.
Mais je vous répète que ma sœur n'est absolument pour rien dans tout ceci.
Et on commence par les titres.
Une image a fait le tour des médias, celle d'Éric, un gilet jaune qui a manifesté seul en plein milieu d'un carrefour à Montluçon.
Ouais, il était tellement seul, on aurait dit Emmanuel Macron.
On a appris ce matin que Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, avait été arrêté au Japon.
Et oui, en même temps, la Renault Fuego, un jour il fallait que ça se paye.
Football en Ligue des Nations, la Belgique.
Non, il y a beaucoup d'infos sur les gilets jaunes, sur Carlos Ghosn, on a plein de choses à traiter.
On fait pas de brève.
Si, les brèves, ça, on trouve toujours un peu
le temps. Parce qu'il y a eu 5-2.
Non,
pas gagné.
5-2 pour la Suisse.
Depuis le 8 juillet, le football n'existe plus. On commence par les gilets jaunes.
Alors oui, plusieurs rassemblements perturbent encore la circulation aujourd'hui.
Oui, on dit qu'ils n'ont pas une grande conscience écologique, les gilets jaunes, mais en même temps, s'ils paralysent le pays suffisamment longtemps, ça va vachement réduire le gaz à effet de serre, donc merci à eux.
Ces gilets jaunes qui appellent aussi à une manifestation nationale pour bloquer Paris samedi prochain.
Ouais, pas sûr que ça serve à quelque chose. Hein. Les Parisiens, ça fait des années qu'ils sont habitués aux bouchons, ils vont pas voir la différence.
Et les médias ont largement couvert l'événement.
Oui, notamment France 3 Aquitaine, et quand sa correspondante en fin de journal a commencé à parler, ce qui est arrivé.
Malheureusement, la situation se tend. Cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant et des forces de l'ordre. Les CRS sont arrivés avec leur matraque et leur bouclier. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes.
Direct. Au revoir à ce soir.
Ça a évidemment angoissé pas mal de monde et la chaîne a expliqué que c'est la fin du décrochage régional et la journaliste a dû couper sec pour rendre l'antenne à Paris. Voilà, c'était pas de la censure, mais c'était rigolo quand même.
Et pour parler de tout cela, Édouard Philippe était hier soir l'invité du journal de France 2.
Oui, il prétend avoir bien entendu la colère des Français. On m'a dit qu'il y a une page de pub.
Ah, dans le journal.
Oui, dans le journal.
Ça fait un certain temps que je vous observe.
Moi, j'entends ce que disent les Français.
Je vois bien que vous entendez de moins en moins.
On a entendu de la colère.
Vous comprenez mal.
Donc je vois très bien cette colère qui s'exprime. Je la comprends parfaitement.
Vous faites répéter, c'est vrai, vous augmentez le son de la télé. C'est gênant.
J'entends ce que disent les Français.
Il y a pourtant des solutions efficaces pour vous entendre.
Car le message a été entendu.
Allez chez Audica. Vous informez sur leur site auditif numérique.
Donc j'entends ça.
Audica, la réponse est là.
C'est très clair.
Si, il faut de la pub. On passe à la suite fiscalité.
Carlos Ghosn a été arrêté au Japon. Il est accusé d'avoir dissimulé une partie de son salaire au fisc, alors qu'en France, il n'a jamais été inquiété.
Eh oui, c'est normal. En France, on s'est contenté de regarder ses photos sur Facebook et comme il pose avec une Renault Mégane, ça paraissait pas suspect évidemment.
Et oui, il est le PDG de Renault Nissan. Résultat, Nissan va proposer son départ.
Et pour le remplacer, je pense qu'il y a qu'un seul nom qui sort du chapeau, c'est N'Golo Kanté, a priori.
Justement, football. Oui. L'État pourrait vendre le Stade de France.
Et oui, s'il pouvait vendre les pieds d'Olivier Giroud en même temps, ce serait une affaire.
Football toujours. La Belgique jouait en
Suisse. Oh là là, Charline, attention, Charline, on rend le décrochage régional à Paris. Voilà.
Les brèves.
Oui, Haute-Savoie.
Tu prennes la Suisse.
Oui, justement. À Anti. Ivre, virgule, il faisait du stop les parties génitales à l'air. Déjà, quand on est habillé, c'est vexant quand les gens ne s'arrêtent pas, mais là, c'est appris personnellement.
Bon, la dernière, c'est On aime, on vous en parle.
Le youtubeur rennais, monsieur Sebi, a profité de l'actu pour nous pondre une petite chanson.
Je suis descendu un 17 en bas de chez moi. Les gilets jaunes et tout ça.
Oui, sur l'air de Néant 17 à l'Heidenstadt, hein, où ils ont fini là-bas par préférer les chemises brunes aux gilets jaunes. Allez, comme vous avez aimé ça, je vous mets la fin de la chanson.
Il y en a trop marre, Brigitte, sérieux, fait quelque chose. Après nous, la fin du monde. Nous voilà dans cette manif pour répondre à Monsieur Macron. Ne nous prends pas pour des cons.
On peut y arriver, hein.
Oui. 17h26 à Poitiers et sur France Inter. Poitiers, car c'est là où vous êtes né, n'est-ce pas, François Durper.
Ça fait peur. Vous savez comment on appelle les habitants de Poitiers?
Les Poitevins.
Pas du tout, non, les Pictaviens. C'est les Poitevins, c'est les habitants du Poitou.
Ouais.
Vous avez vu le nombre de gens qui attendaient cette information.
Mais oui. Alors les salut des notes, là. Tous les auditeurs Pictaves.
J'ai incarné un de ça. Et les habitants de Nancy.
Nancéens.
Nancéens.
À chaque fois, je plante, moi.
Et ça va, vous, François, dans votre vie, sinon.
C'est passionnant.
Avant de continuer à jouer, parce qu'on peut continuer à jouer pendant l'antenne.
Je suis invité tous les jours de la semaine.
N'hésitez pas à nous envoyer. Hashtag, on posera les questions à François, voir s'il est au taquet. Des villes difficiles.
Qu'est-ce qu'il est réactif.
Sur Twitter, essayez de lui poser des colles. Alors, le nouveau président brésilien Bolsonaro lance sa première chasse aux sorcières et sont visés les enseignants, en particulier des écoles publiques, soupçonnés de pratiquer du socialisme scolaire, en enseignant notamment le marxisme, en encourageant la sexualisation précoce, nous dit-il. Un député, ancien policier, propose même un projet de loi nommé « École sans parti ». En revanche, les propos créationnistes, eux, sont tolérés. Voici le discours de Bolsonaro sur l'enseignement.
Je suis résolu à ne pas tolérer la filtration communiste,
La propagande communiste, la subversion communiste, l'intoxication et le complot communiste, qui sapent et qui putréfient tous nos plus précieux fluides corporels.
Un extrait du docteur Folamour Kubrick. C'est un article paru dans Le Monde daté d'aujourd'hui. C'est l'ouverture du journal sur voilà cette chasse aux sorcières lancée par Bolsonaro et quelques députés. Alors, dès son arrivée au pouvoir, il veut donc orienter l'enseignement et en particulier aussi l'enseignement de l'histoire. Ça, c'est le premier réflexe quand on veut mettre un pays au pas. Vous parliez de curseur de l'histoire tout à l'heure et d'évolution de son récit.
Et au Brésil, il faut rappeler quand même que la démocratie, elle est très récente. Et on connaît le motto brésilien, ordre et progrès. Et c'est un pays où le progrès, précisément, a découlé de l'ordre. Donc la notion d'ordre a un sens. Et là, il s'agit de remettre en ordre l'éducation. Dans un contexte très latino-américain, parce qu'on parle du communisme, mais c'est aussi le chavisme qui est visé, et le guevarisme. Donc c'est un combat idéologique, une guerre culturelle qui veut réouvrir au sein de la société brésilienne. Évidemment, comme d'habitude, quand on dit on va retirer l'idéologie des écoles, c'est pour, au contraire, en amener une autre.
Oui. Vous dites que l'histoire évolue par les choix que la société fait de héros ou de groupes à mettre en avant. Vous prenez d'ailleurs comme exemple aussi Jeanne d'Arc qui n'apparaît pas avant le 19e siècle dans le grand récit national, c'est
non,
ça?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il est absurde de dire ne touchez pas au récit national, puisqu'en fait, ce récit national, il a une date, il est créé à un moment donné, il évolue. Donc ça, je dis, c'est quand même assez étrange d'accepter que les sciences physiques ou que les mathématiques évoluent, mais pour l'histoire, il faudrait que ça reste exactement
figé,
tel que ça a été sous la Troisième République. Mais manque de bol, Jeanne d'Arc, on ne l'enseignait pas au XVIIIe siècle. Elle est apparue. D'ailleurs, les Gaulois, les Français étaient descendants des Francs. Enfin, les aristocrates se considéraient comme descendants des Francs. Donc les Gaulois, ils sont arrivés dans le récit à un moment donné.
Est-ce que c'est pas très français ce côté de vouloir des héros, que ce soit Jeanne d'Arc, Vercingétorix, Napoléon, De Gaulle? J'ai l'impression que nous, Belges, le héros belge, c'est Manneken Pis parce qu'il a pissé sur une incendie à Bruxelles. Mais sinon, il n'y a pas un nom comme ça dont on mettrait les statues partout où on tamponnerait.
Non, mais vous avez raison, parce que la plupart des historiens, d'ailleurs, ne disent pas que l'histoire avance par des héros. Simplement, tout dépend en fait de l'âge auquel on considère les choses. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, ceux qui ont par exemple révolutionné l'histoire, les Lucien Febvre, les Marc Bloch, disaient, mais attention, avec des enfants de 9 ans, il peut être intéressant quand même d'enseigner cette histoire à travers des figures, mais après, très rapidement, on explique que l'histoire, elle est faite plutôt de groupes humains, de groupes sociaux.
Oui, bien sûr. D'où aussi une vision, un prisme régional pour expliquer l'histoire que vous défendez aussi. Un exemple dans votre ouvrage, nos ancêtres ne sont pas gaulois. Vous dites Victor Schoelcher, figure Victor Schoelcher, figure de l'abolition de l'esclavage, proposait lui finalement une abolition très progressive. Et avant lui, le Martiniquais Cyril Bisset était vraiment le pionnier.
Exactement. C'est que Victor Schoelcher, je me souviens, aux Antilles, il y a une statue de Victor Schoelcher et des touristes étaient là en disant mais ah, c'est le monsieur qui a aboli l'esclavage. C'est pas le monsieur qui a aboli l'esclavage. L'histoire a retenu ça. Faut pas retirer ce qu'a fait Victor Schoelcher. Mais au moment où Victor Schoelcher disait l'esclavage sera aboli, oui, dans 60 ans, mais il faut quand même des étapes. Cyril Bisset, lui, martiniquais, disait il faut l'abolir maintenant. Et il y a une ville en Martinique qui s'appelle Schoelcher et il y a un rond-point qui s'appelle Cyril Bisset. Donc je propose l'inverse. qu'on débattisse Schoelcher.
Si les gilets jaunes nous écoutent, rendez-vous au rond-point. Cyril Bisset. François Durper avec nous et autour de cette table, chers auditeurs, il est de retour avec plaisir.
Les habitants d'Évreux. Ça fait mal. Là, ils sont chauds les gens maintenant.
Il y a la réponse.
Évreux ici.
Notez-le, François
Durper.
Notez
dans le livre, ça.
Thomas Bideguin, donc.
Ah oui, voilà. Ok. Bon, donc c'est mon petit quart d'heure.
Ça va durer vraiment un quart d'heure.
Vous allez voir.
Ça paraît plus long parfois.
Enfin, c'était ça ou la prison à Tokyo. Et d'ailleurs, il paraît que Renault a perdu 15% de sa valeur. Et du coup, il s'est remis à boire. Donc, c'est comme disait Fromé, être né sous le signe de Carlos Ghosn, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Enfin, merci Julie. Merci madame. Enfin voilà, je reviens donc une fois de plus pour parler de storytelling, de tous ces petits récits qui, consciencieusement mis bout à bout, forment la grande histoire du n'importe quoi, incohérente et brutale, comme un discours de Laurent Wauquiez. Hier, devant le Sens Commun Comedy Club, il a déclaré que la généralisation de la PMA conduirait à l'eugénisme tel que le pratiquaient les nazis. Mais bon, il a dû quitter la réunion avant la fin parce qu'il devait se rendre à un meeting de Point Goodwin Anonymous avec Éric Zemmour et John Galliano. Donc, pas si Anonymous que ça. Enfin voilà, le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est le triomphe. Car bien sûr, on n'aime jamais rien tant que les histoires dans où le héros triomphe. On aime quand Thor sauve le monde. Le héros viking, pas Michel. Et, merci Alex. Compris. Oui, ou même, plus près de chez nous, on aime quand Richard Berry réussit à sauver les pensionnaires de son EHPAD, ou même quand Philippe Catherine apprend à nager. On aime les histoires de triomphe. Mais voilà, le triomphe, après, faut pas trop la ramener. Parce que si on aime le triomphe, on aime tout autant la modestie qui est censée venir avec. Sinon, et c'est ça la règle, l'empathie change de camp. C'est pour ça que dans les récits, on greffe généralement au héros une histoire d'amour, un empêchement un peu personnel ou une passion soudaine pour le bien commun, de façon à ce qu'il ne prenne pas trop le melon et que tout le monde ne bascule pas immédiatement du côté des méchants. On a vu ça samedi soir quand notre équipe de champions du monde de football de France s'est pris une tôle par une équipe de jeunes Hollandais inconnus qui font sûrement un peu moins de publicité pour la mousse à raser, le high-tech ou les paris en ligne. Mais on voit aussi ça, bien sûr, depuis 18 mois avec Macron et sa République en marche. Parce que quand on survend son triomphe, son raz-de-marée et le nouveau monde qu'on est censé incarner à soi tout seul, c'est difficile de ne pas éprouver un tant soit peu de sympathie pour le premier venu qui viendra pisser dans cette piscine-là. C'est ce à quoi on assiste avec les fameux gilets jaunes. Alors bien sûr, c'est pas les plus malins, c'est pas non plus les mieux sapés. Et on aimerait qu'ils réservent leur colère à des causes un peu plus larges. Et puis ils sont un peu à nuit debout, ce que Bienvenue chez les Ch'tis serait à Taxi Driver. Mais c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être sympathiques. C'est leur fonction dans l'histoire qu'il est. C'est comme un effet boomerang. Dès qu'on les voit sortir du pédiluve, on sait que ça ne va pas rater. Mais tout de même, le meilleur exemple pour ça, c'est ici, dans cette maison ronde qu'on a pu le trouver cette semaine. Par un effet de coïncidence, dont seule l'actualité et Claude Lelouch ont le secret, jeudi dernier, tombaient les résultats médiamétrie du trimestre. Ah, fallait écouter le 7-9. Salamé et Demorand en faisaient leur chou gras. Et maintenant, l'édito politique le plus écouté de France. Et maintenant, la météo la plus écoutée de France. Et maintenant, la publicité All Access Volkswagen la plus écoutée de France. Et la coïncidence, c'est que ce même matin, clôturant cette tranche toute illuminée de triomphe, arrivait la chronique de Frédéric Becbédé, qui visiblement n'avait rien prévu, ou alors avait tout perdu, en tout cas ses moyens déjà. S'en suivirent donc 3 minutes de silence et de bredouillage. Et c'est long, 3 minutes. 8, encore plus dans mon cas. 3 minutes de vide à cette heure-là. Sur France Inter, c'est à peu près le temps de dire 25 fois, offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2500 euros réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank, voire conditions sur Audi FR, journée All Access signifie journée exceptionnelle. C'est donc vraiment du temps gâché ces 3 minutes. Eh ben oui. Et donc, les animateurs qui venaient de passer 2 heures assis sur le toit du monde avec les pieds qui se balancent, nous offrir 3 minutes de gênance et de rire nerveux. Un peu comme ceux qu'on avait eus en regardant leurs vidéos enregistrées après la démission de Nicolas Hulot. Les commentaires sarcastiques en moins. Alors, Becbédé, c'est pas le plus travailleur. C'est pas non plus le mieux sapé. Et on peut regretter qu'il n'utilise pas sa nonchalance pour des causes un peu plus larges. Mais on peut pas du coup s'empêcher de penser que c'est dommage qu'il ait démissionné. Ou qu'on l'ait renvoyé. Dans cette maison si pleine de journalistes, on saura vraiment jamais. Mais bon, c'est dommage parce que... c'est dommage parce que c'était amusant de regarder Augustin Trapenard ce matin-là, bouche bée, mesurant l'impact d'un véritable effet boomerang. Voilà. Alors, en 1972... Maurice Pialat présentait son film « Nous ne vieillirons pas ensemble » au Festival de Cannes. Et après avoir monté les marches et balancé la presse, son acteur principal, Jean-Yann, était parti avec sa fiancée de l'époque, Nicole Calfan, en Israël, dans le désert, pour des repérages pour son prochain film. Et ils sont là depuis une dizaine de jours, ils sont en train de conduire dans le désert, et puis là, Nicole Calfan réalise, et elle demande à Jean-Yann, elle lui dit « Mais le festival est terminé depuis 8 jours, le prix d'interprétation masculine, qui est-ce qu'il a gagné ?» Et Jean-Yann, là, tout en conduisant, il dit « Ben c'est moi ». Et ben c'est comme ça, il y a des attitudes face au triomphe qui vous enlèveraient toute envie de pisser dans la piscine.
Thomas Bidguin, merci Thomas.
C'était votre dernière chronique. Ouais.
Merci Nicolas.
C'est 15 minutes à revoir, bien sûr, sur notre page Facebook. Et on
si
l'embrasse.
Vous avez du temps.
On l'embrasse, Frédéric Becbédé.
Qui revient.
Vous êtes sur France Inter, c'est François Durpère, notre invité. Restez avec nous.
Affamé de toi, j'absorbe ton être et me délecte de ta chair offerte. Donne-moi toute ta substance, deviens peau remplie de vide, traversée par le néant. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu.
Par Jupiter sur France Inter avec l'historien François Durpère qui publie Nos ancêtres ne sont pas gaulois, une contre-histoire de France.
Ils sont belges.
Ouais, notamment.
Sans doute.
Ouais, on est les premiers à y être arrivés, c'est ce que vous dites. Après, il y a eu les Italiens.
Quoi, on est champion du monde.
Hein. Alors, première, première immigration
c'est
en
bon,
France.
C'est bon, c'est gagné. On dit que c'est gagné. Allez, on dit que c'est gagné.
Il explique ça. En plus, François Dupin explique qu'il y a les Belges, les Italiens et les Polonais. Vous cumulez les deux.
Si je suis pas champion du monde, formidable. Je comprends pas. Personne l'est.
On vient avec vous, François Durpère. On va parler des sites en Grèce qui seront sans doute bientôt privatisés. Mais avant cela. Un petit coup de gilet jaune.
Oui, je vais vous parler des gilets jaunes, bien sûr. Évidemment, je ne sais pas si vous avez, vous en avez entendu parler des gilets jaunes ou pas. Non. Bon, normalement, tout le monde a moins que vous viviez dans une grotte ou dans la gueule de bois de Juliette Arnault. A priori, oui. Et puisqu'on parle d'alcool, j'étais en Bretagne ce week-end. Voilà, grosse région de mobilisation. Hein. Je vous rappelle les bonnets rouges, c'était déjà là-bas. Les gilets jaunes. Donc, on est sur la garde-robe d'Eddie de Préto, mais en mode quand même bien vénère. Parce que, bon, il faut vous le dire quand même, moi j'ai de la sympathie quand même pour les gens en colère. Quand Finkielkraut, il dit « Taisez-vous !» Il y a un truc qui me touche là-dedans. Je vois le mec qui se prend pour Socrate devenir subitement Joey Star et j'ai vraiment beaucoup de compassion. Alors, je suis allé à leur rencontre sur un point de blocage. Donc, les Gilets jaunes sont souvent des gens qui galèrent financièrement et auxquels Macron veut prendre encore plus de thunes. Ça, c'est classique chez lui, hein. C'est son tube, c'est son « Les lacs du Connemara ». Voilà, pour prendre une référence que Alex connaît. Je ne veux perdre personne en route, attention. Hein. Les Gilets jaunes, c'est d'abord un beau mouvement, une belle solidarité entre les Français. Tous les Français, les Gilets jaunes, ils défendent tout le monde.
Pour les vieux et tout, moi je suis pour tout le monde.
Les cheminots aussi ?
Non.
Ah, pas les cheminots. Bah non, ils ont tout déjà. Ouais, alors, bon, évidemment, voilà, je précise tout le monde sauf les cheminots. Ouais, ouais, évidemment, je suis con avec mes questions parfois. Parce que les cheminots, à chaque fois, qui militent pour leurs droits et ils prennent la France en otage, voilà, on sait très bien que les cheminots, c'est une filiale de Daesh, hein, où la calache est remplacée par la sauce samouraï pour les merguez. Donc, je reprends. Les Gilets jaunes sont solidaires de tout le monde, sauf les cheminots.
Je suis pas solidaire des cheminots.
Voilà. Est-ce que vous êtes solidaire des enseignants ?
Non plus.
Ah oui ?
Ils bossent 18 heures par semaine. Ils ont 4 mois de vacances. C'est pas faux ce que je dis ?
Ouais, alors je reprends. Solidaire de tout le monde, sauf les cheminots et les enseignants, avec leurs 4 mois de vacances aux Seychelles, hein, je rappelle. Tout frais payé avec option massage de pied par Jean-Michel Blanquer, ça va bien. Alors je dirais en règle générale, pour aller plus vite, manque de solidarité avec les fonctionnaires, hein, comme je n'ai pas tous voulu faire. Ouais, mais voilà, comme ça je vous fais un petit point comme ça. Alors la convergence des luttes en France, c'est pas pour tout de suite. Mais la manif était bon enfant, je dois le dire aussi. D'ailleurs, il y avait des enfants avec leurs parents, bien sûr.
Ma fille de 21 mois est venue manifester ce matin à 9h.
De son plein gré.
De son plein gré, effectivement, parce qu'elle avait demandé depuis hier soir. Elle dit « Maman, est-ce que je peux venir à la manifestation parce que j'en ai marre de me faire taxer ?»
Voilà, alors on dit que les Français ne sont plus politisés, mais quand une gamine de 21 mois te dit qu'elle en a marre de se faire taxer, ben on sait qu'on a affaire à une petite nourrie au journal de Jean-Pierre Pernaut. Hein, on a mis des vrais morceaux d'Éric Brunet dans ses miel pops. Ceci dit, des enfants en lutte, il y en avait. En voilà une autre, une petite fille qui était contre Macron.
Arrêter l'essence et changer de président.
Ah, et tu voudrais qui comme président ?
Marine Le Pen.
Elle est mignonne, elle est mignonne.
Il faudrait pas que ça grandisse.
Les enfants sont formidables. Non, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, t'es idéaliste, voilà. Attends, à cet âge-là, tu rêves d'un monde meilleur où on pourrait enfin avoir Bruno Gollnisch comme Premier ministre, Robert Ménard, ministre de l'Éducation nationale, Gilbert Collard, ministre du Ricard. Enfin, le rêve de tout enfant. Alors pourquoi elle aime Marine Le Pen ?
Déjà, elle a déjà dit qu'elle voulait baisser les taxes. Et voilà, donc moi, c'est.
Elle voulait baisser les taxes, ça
oui.
Et on y croit ? Elle baisserait les taxes si elle était présidente ?
Oui, oui.
Comment tu peux être sûre de ça ?
Parce que Marine Le Pen, je pense pas qu'elle ferait comme Macron mentir.
Ah ouais, elle est honnête ?
Oui.
Ah oui, elle est honnête, Marine Le Pen. Hein. C'est pas le genre à avoir des emplois fictifs, de pas se rendre aux convocations de la police. Voilà, c'est l'honnêteté incarnée, c'est la sagesse. D'ailleurs, le Dalai Lama va faire des stages hein, chez Marine Le Pen régulièrement pour voir comment s'incarne cette probité. C'est bon. Alors, Le Pen, c'était quand même un petit peu la star du barrage. Hein.
Moi, personnellement, j'ai voté pour Le Pen. Hein.
Mais peut-être que Le Pen, elle aura augmenté aussi les taxes sur l'essence.
Ben, de toute façon, c'est un risque qu'il fallait prendre, je pense. Ah oui, moi, j'avais pas peur. Hein. De toute façon, on est tous dans la merde. Alors, avec elle, ça aurait pas été pire, quoi, je veux dire.
Comment vous pouvez savoir ?
Ben non, mais comment on peut savoir si on n'essaye pas ?
Ah ouais.
C'est la question, c'est pareil. Donc voilà.
Ouais, mais ça marche avec tout alors.
Faut pas avoir peur.
Comment on peut savoir que le feu ça brûle si on met pas la main dedans ?
Ah ben oui, c'est sûr, mais bon, non, moi je pense que moi je pas de soucis. Hein.
Bon. Pas de soucis.
Bien essayé en tout cas.
Non, mais c'est pas de soucis. Voilà. Pas de soucis à part si t'es pauvre, homosexuel, musulman, juif, sans papier, femme, etc. Jusque-là, pas de soucis. Je suis d'accord. Faites un effort. Mais je rappelle quand même que l'extrême droite en France, on a déjà essayé. Hein, il s'appelait Philippe Pétain. On a vu quand même ce que ça donnait. Je dirais un bilan mitigé. Hein, je parle sous le contrôle de l'historien.
Mais ça, c'est la mode de dire que Pétain était super sympa.
Voilà. Il a fait des choix funestes, mais bon, voilà. Les trains roulaient à l'époque, mais les destinations, bon, il y avait pas beaucoup de choix. Fallait aimer la Pologne quand même. Allez, on termine avec un message pour Monsieur Macron.
Monsieur Macron, je vais vous dire une chose. Vous n'avez qu'à diminuer le RSA de 200 euros. Ces feignants, là, ils iront courir pour chercher du travail. Voilà.
Il y a quand même vachement plus de chômeurs que d'offres d'emploi, non ?
Non, du travail, il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Mais si on ne les pousse pas à aller, on ne les encourage pas à aller au travail, on les encourage à rester au chômage en leur donnant presque 600 euros par mois.
Et le luxe, évidemment, le luxe, hein, 600 euros par mois. Alors ça, c'est un vrai point de convergence avec Macron. Faire croire que les difficultés viennent des gens encore plus en difficulté que vous, hein, les pauvres, les migrants, etc., etc. Donc tranquille, pépère, Macron prépare l'arrivée du FN. Après le le jaune, la mode pourrait être le vert de gris.
Merci Guillaume Meurice pour ce petit tour chez les Gaulois réfractaires. Sans déplaire à notre invité François Durper, puisque vous publiez Nos ancêtres ne sont pas Gaulois, contre histoire de France, avec un peu de créolité dedans, ça fait du bien. On va aborder cet autre sujet avec vous, car le palais de Knossos pourrait être livré ou privé. Sans doute pas pour en faire un Airbnb, parce que c'est assez mal isolé. Mais la Grèce s'apprête à livrer des centaines de sites et des milliers de biens à un fonds de privatisation pour faire entrer des sous dans les caisses de l'État. En tout cas, il va être surpris, Bouygues, quand il va débarquer sur le site qu'il aura acheté, je vous le dis.
C'est pas possible. Possible. Mais c'est pas pour ça que vous m'avez fait signer.
C'est vous qui avez voulu signer.
Mais il fallait m'en empêcher. Regardez ça, c'est une ruine. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là.
Oh là là.
Regardez-moi ça. Il n'y a rien alors.
Non, mais vous allez tout mettre.
Comment ça tout mettre?
Ben, vous avez écrit de fond en comble.
Oui, mais non, mais attendez, fond en comble, on va peut-être pas tout faire de fond en comble. On va laisser quelques ruines. C'est joli, des ruines.
Le tatoué, bien sûr, film de Denis Lapatelier. C'est une information publiée dans le Figaro qui nous explique donc que malgré le fait que la Constitution protège les sites archéologiques grecs, il y a toute une liste de sites, dont le palais de Knossos quand même, qui est dans cette liste pour vers un fonds de privatisation. J'imagine que l'historien a les poils qui se dressent quand il voit ça.
C'est encore une référence à ma coupe ou
À votre coupe de cheveux, non.
Alors, ça a déjà été tenté. De faire en sorte que les sites deviennent privés. Les Américains, beaucoup au début du XXe siècle, se disaient tiens, on va acheter les sites européens parce qu'ils voulaient avoir des sites qu'ils n'avaient pas parce que l'histoire était très très jeune. Mm-hmm. Mais il y a un problème, c'est que l'histoire, enfin le passé, c'est public, ça appartient à tout le monde. Donc si vous le donnez à des fonds privés, bah vous pouvez avoir tout, n'importe quoi. Vous imaginez une Disneylandisation de tous les sites archéologiques athéniens. C'est quelque chose qui juste est pas possible. Mais c'est intéressant parce que c'est en lien quand même avec votre première info. L'école publique devient privée. C'est ce que, c'est ce qu'on cherche. L'histoire publique devient privée. Donc on a là quelque chose qui est en train de gagner. On parle beaucoup du populisme nationaliste, mais il y a aussi derrière tous ces mouvements-là un libéralisme aussi rampant. Oui. Un capitalisme qui gagne jusqu'à des choses dont on n'aurait pas imaginé qu'ils puissent être sous la coupe d'intérêts privés.
Jusqu'à privatiser notre passé, en fait, notre histoire.
Le passé, c'est un monument. C'est quelque chose qui c'est comme vous, tout d'un coup, votre histoire devient la propriété de quelqu'un d'autre. C'est juste quelque chose qui est impossible.
Non, mais la Grèce, c'est notre histoire, mais c'est les Grecs qui doivent payer l'entretien de cette histoire-là pour nous tous.
C'est bon, alors, d'abord, il y a une loi européenne. Vous avez parlé de l'article 24 de la Constitution grecque, mais il y a aussi une loi européenne qui l'interdit. Il y a aussi des fonds européens qui peuvent aller dans la défense du patrimoine.
Donc, c'est pas fait.
Du fonds public européen, donc c'est pas fait. Et là, effectivement, ce serait à l'Europe de dire... Europe, c'est un nom grec. Ça serait l'Europe de dire, on se charge de ça et s'il faut aider l'État grec, on l'aide. Mais pas de fonds privés.
En tout cas, pour les sites gallo-romains, là, on sait qu'en France, il y aura des gens, ou pour les sites gaulois, des gens qui vont le défendre bec et ongle. Et ça, on est moins inquiet, n'est-ce pas, François Durper? Parlons aussi d'un autre livre, tiens, Juliette Arnoux, votre choix de la semaine, on peut dire.
Du jour. Alors, la lecture d'un livre, c'est comme l'amour, c'est Fight Club, il n'y a pas de règles. Il en est des lectures comme des histoires d'amour, c'est-à-dire qu'il en est des courtes qui durent dans la tête et des longues qui s'évanouissent comme une brume d'été. C'est précision parce que le livre d'aujourd'hui prend fin 110 pages après le début de la lecture. Alors c'est une lecture straight, à l'os, sans fioritures, on s'étale pas, quitte à être frustré. De toute façon, on n'a pas le temps d'être frustré, vu qu'une fois qu'on est happé par la lecture, ça défile, on fonce et on vise le bout du tunnel. Le bouquin s'appelle « Deux femmes », il est écrit par Denis Soula sur la photo de couverture « Deux femmes casquées sur une moto ». C'est un élément majeur, la moto, c'est ma spéciale case dédiée aux gilets jaunes. Je cite le livre, la moto a émis ce son qui me réconforte tant. Voilà, dédicace tout à fait bénévole, je n'ai pas de moto, je n'ai aucun moteur, je n'ai aucun permis. On suit d'abord leurs deux parcours à ces deux femmes, séparément un chapitre chacune, pas de lien entre elles, jusqu'à ce que lien il y ait. Et lien, c'est un euphémisme, leur parcours se percute. Alors la course s'emballe comme une moto sur une ligne droite et vous aurez vraiment trop la frousse de tomber pour songer à prendre un 4 heures ou un Valium. La première femme est définie par son métier. Alors on joue mon épreuve préférée de questions pour un champion, le face-à-face. Je passe ma vie à courir, nager, sauter dans des fossés, conduire des motos, des camions, faire de la chimie, des équations, dévorer des livres d'histoire, des manuels de géopolitique, apprendre plusieurs langues et des notices d'utilisation d'armes et d'explosifs. Je suis... Espionne. Elle est espionne, elle bosse pour les services avec un grand S, elle est la seule fille du régiment et elle est de gauche. Ah, bah ça c'est rigolo. De gauche et assassin assermenté, si, c'est rigolo. Alors c'est qu'elle ne vient pas des années de plomb, le sac, Pasqua et tous leurs petits copains. Elle a rêvé en 1981, elle a rêvé de Mitterrand, elle avait 18 ans, elle a été repérée par un type proche d'Ernu. Et puis les années sont passées, elle est restée, et je la cite, les hommes au pouvoir sont restés égoïstes, les femmes sont restées cantonné, il a fallu arrêter de rêver et commencer à grandir. L'autre femme, alors elle, c'est pas son métier qui l'a définie, c'est qu'elle aussi, elle a une armure. C'est une veste en laine tricotée à la main par les doigts débutants d'une petite fille, la sienne, qui n'a pas eu le temps d'apprendre à faire moins de trous dans la trame parce que la petite fille est morte. Et la mère tient debout parce qu'elle en a une autre, deux filles, une plus grande. Et elle a une moto, la mère. Je la cite, la vitesse monte, ma respiration se bloque, tout sens convoqué, concentré. Quand j'ai bien pris mon pied, eu suffisamment peur, je décélère, visière et cuir ouverts, l'air glisse sur ma poitrine, bienfaisant. Voilà. Deux femmes et un seul point commun, chacune a une de ses passions proverbialement masculines, la moto ou le meurtre. Le livre est court parce que délibérément, il glisse sur les détails. On ne saura pas pourquoi et comment l'enfant est morte, on sait juste que sa mère n'est pas certaine de survivre au déséquilibre. Denis Soula ne verse pas dans la psychologie du tout. Ce sont des femmes chacune dans un mouvement, dans une somme d'actions, avec tout à coup le destin ou les parcs. Chacun choisira qui les réunit. Et c'est la deuxième partie du roman qui attaque. Attaque, je pèse mes mots. Indice, mais je n'irai pas plus loin, j'ai pas le droit. Charline et Alex me surveillent. Alors c'est chiant, ça me dérange, c'est affreux. Il faut que je trompe mon désir de spoil qui est encore plus fort que mon désir de faire péter des points noirs dans le dos de mon frère. Plaisir saucé, c'est l'handicapé. Merci, bisous, merci.
Julienne, vous pouvez nous rappeler les références du livre?
Alors ça s'appelle Deux femmes, c'est écrit par Denis Soula et c'est chez Joël Losfeld Édition.
Merci. En tout cas, François Durper, dans Nos ancêtres ne sont pas gaulois, il y a le spoil dans le titre.
À la fin, ils sont toujours pas gaulois.
Ça, c'est vrai. Si vous voulez, on peut faire le sketch, et puis si on a encore un peu de temps, on parlera gaulois.
Il est excellent. Je vous donne le texte, François Durper. Chaque jour, on propose à l'invité un rôle, et vous êtes l'assistant de Marine Le Pen. Ce sera Charline qui sera Marine Le Pen, parce qu'elle a eu cette idée brillante. Elle souhaite l'ajout d'un prénom français pour les personnes naturalisées. Elle a donc décidé d'ouvrir une ligne téléphonique. Ça, c'est le petit ajout de notre part. On se rend tout de suite sur place pour voir les premiers candidats.
FDP, j'écoute.
Oui, bonjour, je suis bien l'association de francisation des prénoms.
Oui, tout à fait, monsieur. Comment pouvons-nous vous aider?
En fait, je m'appelle Abdel.
Je crois que vos ancêtres ne sont pas gaulois.
Parce qu'en fait, je m'appelle Abdel Dupont.
Vos parents sont d'horribles islamo-gauchistes, alors?
Non, ils sont juste auditeurs de France Inter.
Je propose qu'on ajoute Jean.
Oui, c'est joli, Jean Abdel Dupont.
Et vous, Madame Le Pen, votre père, quand il était en Algérie, on lui a pas ajouté un prénom local?
Si.
Bon?
Oui, Jean-Marie Kader Le Pen. Bon, suivant.
J'écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Je m'appelle Kimberly et je suis pas sûre que ce soit un prénom français.
Mais c'est très joli, Kimberly.
Enfin, joli.
Oui, mais je voudrais changer. Dans ma banlieue, tout le monde se moque.
Très bien. Et quel prénom souhaiteriez-vous?
Je pensais à Fatoumata.
Marine.
Parfois, je me dis que je sers à rien.
J'écoute.
Ouais, bonjour, je m'appelle Carlos, je souhaite changer de prénom.
Oui, c'est vrai que Carlos, c'est pas vraiment un prénom gaulois.
Non, hein, on le change, hein. Et le nom Gaune aussi, je le changerais bien, parce que j'ai un problème avec le fisc en ce moment, ils sont mon cul et...
Non.
FDP, j'écoute.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur?
Rien, je voulais simplement entendre le son de ta voix.
Pardon?
Oui, elle est si douce, elle est si française, si sensuelle.
Monsieur Zemmour, je vous ai déjà dit de plus appeler ce numéro.
Corinne, je t'aime.
Il y a des prénoms gaulois, véritablement, François Durper, ou bien on tord le cou tout de suite
En tout cas, pas Eric. C'est plutôt scandinave.
C'est sûr.
Mais Vercingétorix, qui est très usité, par exemple.
Oui, il s'appelait oui. Jean-Michel. Jean-Michel Vercingétorix. C'est dans le livre, hein. Faut lire le livre, Julien.
François Durper, on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder ce sujet, mais il nous reste quelques instants. Dans Le Point, il y a un long portrait d'Alexandre Astier, car Astérix revient au cinéma dans un film d'animation qu'il réalise. C'est aussi le créateur de Kaamelott. Le Point dit que c'est le seul auteur-réalisateur français capable de faire le trait d'union entre la culture geek et la culture classique, entre Homer et George Lucas. Ouais. On avait une très belle chanson d'Annie Cordy, d'ailleurs, pour montrer qu'il n'y avait pas qu'Alexandre Astier. le Gaulois, c'est aussi une forme d'icône populaire, d'icône pop et d'icône BD, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si répandu? C'est aussi cette fascination
Parce que c'est le peuple. Quand en fait, les historiens ont fait rentrer les Gaulois à l'intérieur du récit national, c'est une manière d'y faire rentrer le tiers-état, le peuple. Alors qu'avant, on considérait que c'était les Francs, les descendants des familles aristocratiques. Donc, on a toujours eu cet attachement aux Gaulois. Et nos ancêtres sont aussi Gaulois, je rassure tout le monde.
Oui, bien sûr.
Je rassure le monsieur qui m'envoie des messages sur Insta et sur Twitter pour me dire c'est scandaleux, je veux tuer tous les Gaulois. Non, qui se rassure.
Et la pop culture pourrait être un peu créolisée, si je prends un terme très générique.
Elle est déjà créolisée. Elle est déjà. La pop culture, c'est une culture créolisée. La force de la créolisation, enfin de ce terme de glissant, il faut lui rendre hommage, c'est que ça s'applique à l'ensemble du monde aujourd'hui. Ce qu'il faut simplement dire à tous ceux qui ont peur que qu'on chamboule tout, hein, les partisans, ils vont nous envahir, etc., c'est qu'ils voyagent, qu'ils aillent par exemple en Afrique et constatent que le français se porte bien, que le plus grand pays francophone du monde, c'est le Congo, qu'ils aillent à Kinshasa, 15 millions de francophones, et ils se diront, non, c'est bon, le français a encore beaucoup d'avenir devant lui.
Voilà ce livre inscrit dans notre temps, Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre histoire de France, le nouveau roman national proposé par François Durper, c'est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, merci à tous les amis. Et on va vous laisser le mot de la fin, François Durper.
Il y en a qui ont des noms, d'autres qui essayent de se faire un prénom, et moi j'ai qu'une coupe de cheveux. Merde, tout est enregistré.